Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour.
Premier week-end de confinement pour les Français appelés à respecter de façon stricte les consignes de sécurité face au coronavirus. De nombreuses restrictions nouvelles ont été annoncées, voies sur berge, parcs et jardins, promenades en tout genre, des couvre-feux institués dans de nombreuses communes, notamment dans le sud, à Nice et Béziers. Les marchés restent ouverts à condition de respecter les consignes, nous irons voir ce qu'il en est. Et le pic de l'épidémie est encore à venir, nous dira le professeur Delfraissy, président du conseil scientifique, chargé d'éclairer le président de la République et le gouvernement. Un pic dont l'Italie n'est peut-être plus très loin, avec plus de 600 morts dans les dernières 24 heures. Devant cette situation, les masques continuent à manquer en France, en direction des personnels soignants notamment, et la politique reprend ses droits à l'Assemblée, où le projet de loi d'urgence sanitaire est en discussion. Pas question notamment pour l'opposition d'en profiter pour détricoter le droit du travail. Pendant ce temps, 130 000 Français sont toujours bloqués à l'étranger, où leur rapatriement est difficile à organiser. La crise du coronavirus sous tous ses aspects. On en parle bien sûr jusqu'à 13h30 avec la bonne nouvelle de cette matinée, la libération annoncée du chercheur français Roland Marshall. Il était détenu depuis plus de 9 mois en Iran. Sa collègue franco-iranienne Fariba Adelka reste en détention. Le comité de soutien se dit à moitié soulagé. Nous appellerons dans un instant l'une de ses représentantes. Et puis la météo, des températures en nette baisse sur la moitié nord, un ciel particulièrement chargé.
France Inter.
C'est la priorité du gouvernement ce week-end, faire respecter les consignes de confinement. Le ministre de l'Intérieur a prévenu que les règles devront être appliquées de façon plus stricte encore que ces derniers jours et que les contrôles seront encore renforcés, notamment dans les gares, les parcs et jardins qui ne sont pas encore fermés ou tous les lieux de promenade. À Paris, la préfecture de police et la mairie ont d'un commun accord décidé la fermeture des voies sur berge, de l'esplanade des Invalides et du Champ de Mars. Et partout, les polices municipales pourraient être appelées en renfort.
Les policiers municipaux qui pour l'instant ne font que de la prévention, mais dès que la loi sur l'état d'urgence sanitaire sera promulguée, ils seront eux aussi autorisés à sanctionner, comme la police nationale et la gendarmerie, tous les contrevenants qui ne respectent pas les règles du confinement. Règles inchangées depuis mardi midi, interdit de quitter son domicile sauf pour nécessité de travail, courses indispensables ou raison de santé personnelle ou pour un proche, ou bref, promenade tout près de chez soi. Interdit donc de partir en week-end ou en vacances, ou en exode tardif à la campagne, et c'est pourquoi les patrouilles sont renforcées tout ce week-end, notamment dans les gares parisiennes, les aéroports, mais aussi sur les routes et autoroutes. Les gendarmes multiplient les contrôles à des points de péage et obligent les automobilistes qui ne cochent pas les cases autorisées sur l'attestation à rebrousser chemin. Les forces de l'ordre sont aussi déployées sur tous les littoraux atlantiques et méditerranéens, puisque les plages sont désormais interdites. Interdites aussi les balades en forêt, dans certains parcs, sur certains bords de fleuves, comme sur les bords de Seine à Paris. Vous l'avez dit, il y a eu depuis le début du confinement près de 870 000 contrôles, près de 39 000 verbalisations, chiffre tweeté ce matin par le ministre de l'Intérieur. L'amende, je vous le rappelle, est de 135 euros, mais des contrôles ont encore abouti à des gardes à vue ces dernières heures en Seine-Saint-Denis.
Sophie Parmentier, pourquoi il faut rester chez soi autant que possible? Illustration à Noirmoutier, où 30 malades présentent les symptômes de la maladie. La faute aux Parisiens, dit-on, pas forcément, mais la population sur l'île a fortement augmenté depuis la semaine dernière, notamment les résidences secondaires se sont animées avant la saison. Pour les médecins noirmoutrins, tous ces cas sont des cas suspects puisqu'il n'y a pas de test. Il faut donc maintenant respecter scrupuleusement le confinement. Le docteur Cyril Vartagnan au téléphone de Victoria Coussa.
Je pense que c'est un comportement inconscient. Inconscient de la gravité des choses et je dirais non seulement inconscient mais méprisant pour les soignants. Pourquoi ? Parce que je pense que nous sortons pour leur santé, eux, il faut qu'ils restent confinés pour qu'on puisse faire notre travail correctement. Je pense que la population n'a pas compris ce que voulait dire le confinement et l'afflux de population, d'un autre côté, me gêne un petit peu du fait que cet afflux de population, les gens ne comprennent pas non plus que le système de santé sur les territoires est établi en fonction des gens qui vivent à l'année et que si on a une épidémie importante, on n'a pas la capacité sanitaire de gérer un grand flux de population, ni au niveau de l'île de Noirmoutier, ni au niveau territorial, dans les hôpitaux adjacents, dans les hôpitaux qui reçoivent nos patients.
Voilà, sur cette capacité sanitaire, on va revenir dans un instant. Dans ce contexte d'état d'urgence sanitaire, les commerces alimentaires et les marchés, eux, restent ouverts, on le sait, à condition bien sûr de respecter les consignes, les distances de sécurité. Notamment dans la plupart des supérettes ont été installées des protections devant les caisses, ce qui est beaucoup plus difficile à faire évidemment sur les marchés, où enfin ce matin il semble que les choses aient été mieux organisées. Reportage à Pantin, Rémi Brancato.
Sur le marché, deux fois moins d'étal qu'à l'habitude, mais tout de même quelques clients.
Je suis pas sortie de la maison depuis lundi.
Il faut bien se nourrir, nous dit Sophie, un masque sur le visage qu'elle nettoie et réutilise depuis des semaines.
Chez chaque commerçant, je me nettoie les mains avec mon gel alcoolique qui est dans ma poche, quoi.
Sylviane, qui lui vend ses légumes, elle n'a plus de masque utilisé mardi et jeudi ici au marché.
J'étais là cette semaine et il y avait du monde. J'ai l'impression qu'il faut un peu plus attention aujourd'hui.
Juste en face, une file d'attente, c'est la fromagerie avec des clients pas tous prudents, explique Yai, l'une des vendeuses.
Il y en a qui s'approchent quand même, il n'y a pas les mesures qui sont forcément respectées. Du coup, c'est compliqué, nous on n'a pas de masque. Du coup, on peut faire des poussillons et si on est contaminé et qu'on ne sait pas, bah, on peut contaminer les gens. On galère financièrement en fait un peu toutes. On est étudiante, moi je vis avec ma mère, mais pareil, il y a des difficultés financières, du coup on a obligé de venir. Et voilà. Merci bien.
Ici, ce vendeur porte un morceau de plastique pour faire office de masque. Il paye son emplacement à Sacha Dobrozajevic de la société Somarep qui gère le marché et qui a pris des mesures.
Il y a eu le marquage au sol, donc c'est une distance d'un mètre pour les clients.
Les clients là sont à moins d'un mètre dans la file d'attente.
J'irai les voir. À l'occurrence, un commerçant, il est responsable de son stand et il est responsable de respect du marquage.
Les policiers sont absents, mais il assure pouvoir les appeler en cas de besoin.
Rémi Brancato à Pantin. Dans les commerces alimentaires, les précautions ont été prises, on l'a dit. Ce qui risque de manquer à terme, c'est le personnel. La grande distribution a besoin de main-d'œuvre. Et plus que jamais, elle fait appel aujourd'hui aux agences d'intérim, comme le confirme à Sonia Princet Christophe Catoire. Il est le président d'ADECO France.
Du jour où le confinement a été mis en œuvre, beaucoup de Français ont afflué sur les magasins, les grands magasins de distribution, notamment pour l'alimentaire. Et on a constaté un appel très très important de la grande distribution. Nos équipes en font part, mais on n'a pas encore de données consolidées sur le nombre de personnes que cela représente. Je peux juste dire que ça a été extrêmement rapide et extrêmement important en termes de recours. On peut y répondre, on en a les moyens, on y met aussi les mesures de précaution parce que les deux vont de pair. On a les moyens parce que dans le même temps, c'est quasiment 50 à 75% des activités d'intérim qui se sont quasiment éteintes en à peine une semaine, ce qui a laissé quand même beaucoup de candidats que l'on faisait traditionnellement travailler sur le bord du chemin sans travail. Et donc cet appel de la grande distribution à des compétences, et on le sait, c'est vital pour les Français, on peut encore y répondre. Ceci étant, avec des mesures de sécurité importantes, c'est une question qui est souvent posée, de s'assurer que ces fameux gestes barrières soient bien possibles. Le droit de retrait doit s'appliquer systématiquement si vous considérez que ces gestes barrières ne sont pas possibles.
Alors, en moyenne, les enseignes à ce jour affichent un taux d'absence de 4 à 10%. Parmi les plus exposés au risque depuis le début de l'épidémie, outre les caissiers, caissières et commerçants, figurent évidemment les forces de l'ordre, mais aussi les personnels soignants pour lesquels la pénurie de masques de protection se fait cruellement sentir. Le gouvernement a d'ailleurs reconnu des difficultés logistiques, on va y revenir. Un décret publié début mars prévoyait pourtant la livraison de 30 millions de masques aux pharmacies et établissements de soins, masques FFP2 qui protègent à la fois le patient mais aussi le soignant. Manifestement, à ce jour, le compte n'y est toujours pas, malgré une mobilisation générale de nombreuses entreprises contraintes d'arrêter leur activité qui ont fait don de leur stock. Malgré cela, de très nombreux médecins et professionnels de santé prioritaires sur la distribution de ces masques n'ont pas pu être suffisamment servi, Sandy Dauphin. Situation difficile à démêler et surtout à gérer pour les pharmaciens.
Impossible d'avoir des chiffres globaux parce que les livraisons désormais confiées à un seul transporteur arrivent par à-coup dans les officines, explique la présidente de l'Ordre des pharmaciens, Karine Wolfthal, d'où la difficulté de gérer les stocks au jour le jour.
Les livraisons arrivent comme elles peuvent. Ce que l'on reçoit, on ne sait pas si c'est une seule et unique livraison ou si on va recevoir un autre petit bout de livraison plus tard.
Les pharmaciens ont des consignes très strictes, interdiction de vendre des masques à la population, même avec une ordonnance. Et la distribution varie géographiquement en fonction de la progression de l'épidémie entre les 47 départements désormais désignés comme zones à risque et ceux qui ne le sont pas encore.
Dans une zone d'exposition à risque, une pharmacie peut donner 18 masques par professionnel de santé pour la semaine. En priorité, donc, les médecins généralistes, les infirmières, les biologistes, les médecins spécialistes, les masseurs-kinésithérapeutes qui, eux, ne reçoivent que 6 masques, les chirurgiens-dentistes qui, eux, se voient désigner une officine par département pour venir chercher les masques, les sages-femmes, et ensuite, il y a les professionnels à domicile.
Quant au manque de stock de masques en France, l'Ordre des pharmaciens ne veut pas polémiquer, l'heure est à la solidarité, on tirera les leçons de la crise après, dit sa présidente.
Sandy Dauphin, en rappelant qu'aucun patient, fût-il malade, ne peut acheter de masque en pharmacie, qu'il faut passer par son médecin s'il peut, bien sûr, en fournir. Dans ce débat sur le manque de masques, l'opposition a pris le relais des soignants pour dénoncer l'imprévoyance du gouvernement qui, lui, renvoie aux décisions des années 2010 et suivantes et à la baisse continue des stocks. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, il n'y avait plus que 145 millions de masques disponibles au début de cette crise du Covid-19. Des experts font remonter le changement de méthode au ministère de Xavier Bertrand en 2011. Le ministre de la Santé de l'époque aurait décidé de réduire les stocks gigantesques, on parlait alors d'un milliard de masques, et il aurait décidé de se tenir prêt à les fabriquer en cas de besoin. Réponse de celui qui est devenu depuis le président des Hauts-de-France.
Comme j'ai quitté mes fonctions, il y avait 1 milliard 400 millions de masques en France. En 2011, le Haut Conseil de la Santé publique dit que les masques FFP2 sont réservés aux professionnels de santé et que pour toutes les autres catégories, c'est le masque chirurgical. En 2013, il y a un autre avis qui est un avis même pas du ministère de la Santé, du secrétariat général de la Défense nationale, qui dit qu'à partir de cette date, c'est chaque employeur qui devra fournir les masques à ses salariés. Sauf que c'est à partir de ce moment-là que l'on doit avoir toutes les questions. Nous aurons tous à répondre à ces questions-là, et s'il y a une commission d'enquête, c'est pas moi de la décider, je répondrai de ce que j'ai dû faire pendant mes fonctions, et on devra aussi comprendre pourquoi on est passé d'1,4 milliard à 145 millions au moment où Olivier Véran prend, lui, ses fonctions.
Xavier Bertrand sur France 5 hier a noté que ce matin, Édouard Philippe a indiqué aux députés que 40 prototypes de masques étaient actuellement en cours de test afin d'augmenter les capacités de production, masques chirurgicaux et masques FFP2.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decan.
Parmi les polémiques liées à l'épidémie également, que penser du projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire, projet en discussion à l'Assemblée. Le volet financier des mesures annoncées a été voté hier soir, mais c'est la question des congés payés notamment qui fait polémique. L'article 7 de ce projet de loi prévoit de permettre aux employeurs d'imposer des congés aux salariés pendant cette période de confinement, voire de modifier les règles liées au RTT. Pas question pour l'opposition, Maxence Lambrecq, de profiter de cette période particulière pour détricoter le Code du travail.
Il n'y a quasiment que ces deux alinéas qui font débat. Ils offrent aux employeurs la possibilité de revenir sur le repos dominical, le compte épargne-temps, la prise des congés. En contrepartie, Jean-Luc Mélenchon réclame la suspension de la réforme de l'ISF.
Pensez, monsieur le Premier ministre, à la force des symboles. Que nous soit refusée la suspension, même temporaire, de l'impôt sur la fortune rend plus difficile d'exiger des efforts supplémentaires à ceux à qui on annonce qu'on va confisquer des jours de congé ou rallonger des durées de travail, mais surtout des jours de congé.
Les patrons doivent négocier ces aménagements pour le député socialiste Boris Vallaud.
Des dérogations au temps de travail, aux prises de jours de congé ne sauraient relever, à notre sens, d'une décision unilatérale des employeurs. Des accords collectifs, comme le réclament à l'unisson les partenaires sociaux, nous paraissent à tout le moins nécessaires.
Les sénateurs ont déjà fixé une limite, pas plus de 6 jours de congé imposés aux salariés. Et le Premier ministre se veut le plus rassurant possible.
Je souhaite être à cet égard aussi clair et solennel que possible. Les mesures que nous présentons sont temporaires et doivent être strictement limitées à la période d'urgence sanitaire que nous traversons. Leur application sera contrôlé de façon à éviter tout abus.
Édouard Philippe annonce par ailleurs la suspension du jour de carence dans le public et le privé. L'indemnisation de l'assurance maladie sera donc immédiate tant que l'état d'urgence sanitaire sera en vigueur.
Maxence Lambrecq qui suit pour France Inter les débats de l'Assemblée nationale a noté ce matin dans ce contexte que les routiers sont autorisés pendant un mois à rouler plus longtemps que d'habitude et même le dimanche pour assurer l'approvisionnement des secteurs sensibles. Parmi les conséquences de cette période inédite également à propos de congés, faudra-t-il réviser le calendrier scolaire et notamment les vacances d'été? Faudra-t-il les décaler ou les réduire? Organiser des vacances studieuses pour nos écoliers, nos collégiens, nos lycéens? La réponse est claire, pas question pour l'instant de les remettre en cause, a expliqué le ministre Jean-Michel Blanquer, qui prévoit malgré tout la mise en place de modules de rattrapage pour ceux qui le voudront.
Ça ne devrait pas m'amener à changer les vacances d'été. Par contre, nous développerons certainement des modules de soutien scolaire gratuits. Je pense en particulier aux élèves les plus en difficulté, aux élèves de milieux défavorisés, pour que au début du mois de juillet et à la fin du mois d'août, on puisse proposer des éléments de rattrapage. C'est des choses que l'on sait déjà faire à une certaine échelle, mais on va le faire à une plus grande échelle, c'est-à-dire une semaine où vous proposez par exemple à un élève de CM2, la dernière semaine d'août, de se préparer pour son entrée en sixième. Et donc ça permet, en petits groupes, de réviser les savoirs fondamentaux et d'être plus prêt pour la rentrée. On va faire cela à grande échelle, donc ça ne va pas amputer les vacances d'été. Par contre, ça permet d'avoir une offre scolaire gratuite pour ceux qui en auront besoin, et en ayant bien parlé avec les familles avant pour identifier le besoin et motiver tout le monde.
Jean-Michel Blanquer sur BFM. Et tout cela n'est peut-être qu'un début, sans verser dans le catastrophisme. C'est ce que disent les experts, que le pic de l'épidémie est encore à venir. Et c'est ce que va nous dire dans un instant le président du Conseil scientifique, dont se sont entourés le président de la République et le gouvernement. Le pic est à venir, peut-être à l'image de ce que vit aujourd'hui l'Italie, avec une semaine d'avance et malgré 10 jours déjà de confinement. L'Italie qui a passé la barre des 4000 morts, avec plus de 600 décès sur les dernières 24 heures. Omar Waman, vous êtes à Milan, on comprend bien sûr l'inquiétude, pour ne pas dire l'angoisse, qui saisit aujourd'hui les Italiens.
Des rues désertes, des transports en commun, bus, tramway, vide. Milan, capitale de la Lombardie, la région la plus touchée avec 2549 décès depuis le début de l'épidémie, est une ville fantôme, quadrillée par la police, chargée de faire respecter le confinement. Ces derniers jours, les autorités ont perçu un certain relâchement de la part des Italiens et envisagent de durcir les mesures. Le gouverneur de la Lombardie a obtenu gain de cause dans son bras de fer avec Rome. L'armée italienne a commencé à se déployer dans les rues de Milan. 114 soldats pour l'instant vont patrouiller dans la capitale économique de l'Italie afin de créer un choc psychologique et faire comprendre à la population qu'il n'y a pas d'alternative à un confinement total. Mais malgré ces mesures strictes, le nombre de cas est en hausse, les hôpitaux débordés et les décès se multiplient. 381 morts pour la seule région lombarde en 24 heures. Milan, Omar Waman, France Inter.
Rappelons les chiffres, 627 morts en Italie en seulement 24 heures. Le bilan du coronavirus dépasse aujourd'hui le bilan de la Chine. Un mois tout juste après l'apparition du virus dans le pays, l'âge moyen des personnes décédées est de 80 ans. La plus jeune avait 31 ans. Un tableau auquel la France doit aussi se préparer. Daniel Messager, vous avez eu ce matin un entretien avec le professeur Delfraissy, président du Conseil scientifique chargé d'éclairer l'exécutif.
Il faut avoir une vision sur aujourd'hui et sur au moins le mois prochain. Aujourd'hui, c'est l'épidémie qui s'étend et le professeur Jean-François Delfraissy prévient, les jours à venir vont être plus durs.
C'est une période très difficile. On le voit, elle est déjà très difficile dans l'est de la France. Elle va être très difficile en région parisienne et autour de Lyon, par exemple. Parce que les mesures de confinement n'auront pas leur effet avant au moins 6 semaines environ. Alors pourquoi on va être dans une situation très difficile ? Bien, c'est en raison du nombre de formes graves. Le nombre de lits de réanimation dans les différentes régions va-t-il être suffisant pour prendre en charge les formes graves ? Et la réponse est, on est limite dans l'est de la France et on l'a bien vu. Paris s'est extrêmement bien préparé en région parisienne et ça devrait, je pense, pouvoir passer avec des zones de tension sûrement.
Le fait de rester chez soi, les Français s'y attendent. Maintenant, ça va durer.
Il faut que le confinement dure plus que les 15 jours qui étaient initialement prévus. Ça va dépendre de la qualité du confinement. C'est votre confinement. Et vous avez à vous confiner. C'est une chose fondamentale, à la fois pour vous-même et pour les autres. Par exemple, à Paris, les quartiers les plus déshérités et en banlieue, le confinement est probablement moins respecté actuellement. Je dis attention que les personnes les plus fragiles ne soient pas, une fois de plus, la cible d'inégalités médicales et sanitaires qui seraient plus marquées à l'occasion de Covid-2019.
Mais dans les semaines qui viennent, s'il est impossible de prévoir précisément, il faut néanmoins envisager la suite.
Il va falloir ouvrir, parce que je pense que la population française ne pourra difficilement aller au-delà, ou enfin peut-être une ou deux semaines de plus. Il y aura de nouveau des cas, tout ne sera pas réglé. Mais on pense que la vitesse et le nombre de nouvelles contaminations sera moins important. Donc il faut qu'on envisage et qu'on commence à envisager maintenant une nouvelle stratégie, avec une stratégie qui pourrait ressembler à celle qui a été pratiquée en Corée et qui s'appuie sur des dépistages en très grand nombre, des personnes qui se croient atteintes, les dépister, les isoler. Peut-être qu'on aura à cette époque un premier médicament qui permettrait de rentrer dans une stratégie de dépistage et traitement. Tout ça est en train d'être réfléchi pour commencer à envisager qu'est-ce que nous ferons à la sortie du confinement.
Il faudra savoir aussi si les personnes contaminées sont bien immunisées. On le pense, mais ce n'est pas encore une certitude. Il faut au moins 30 à 40% d'immunisation dans une population pour voir baisser une épidémie.
Daniel Messager avec le professeur Delfrécy. Un deuxième avion militaire pour Mulhouse, avion médicalisé venu d'Istres ce matin pour rapatrier, déplacer un nouveau contingent de malades en direction cette fois de la région Nouvelle-Aquitaine, relativement préservée pour l'instant par le virus. Un premier A330 de l'armée avait déjà évacué des malades de l'Alsace vers Marseille et Toulon. Le Grand Est reste l'un des foyers majeurs de cette épidémie et la situation est toujours extrêmement tendue dans les hôpitaux. Audrey Rassaut nous appelle de Mulhouse.
C'est la deuxième fois en seulement quelques jours, en quatre jours, qu'un avion militaire vient soulager l'hôpital de Mulhouse. Un Airbus A330 Phoenix de l'armée de l'air, équipé par le service de santé des armées. Son dispositif est utilisé d'habitude en zone de conflit pour évacuer les blessés sur de longues distances. Là, pas de blessés, mais bien des malades du coronavirus. Mercredi dernier, cet avion militaire avait déjà évacué 6 patients alsaciens vers les hôpitaux de Toulon et de Marseille. L'armée très mobilisée pour aider Mulhouse. Son hôpital engorgé, ses soignants à bout. L'hôpital militaire de campagne promis par Emmanuel Macron est en train d'être installé. Des camions sont arrivés ce matin à Mulhouse avec des dizaines de militaires en treillis qui s'activent pour monter des tentes. La structure comptera 30 lits de réanimation et une centaine de soignants.
Voilà, le déploiement d'un hôpital de campagne a commencé donc sur le parking d'ailleurs, le parking habituellement réservé au personnel et devrait pouvoir accueillir une trentaine de patients. L'armée se mobilise également de plus en plus dans le soutien de la population, notamment par le rapatriement prévu demain de quelques malades corses vers le continent. Annonce du ministre du Logement à l'instant, Julien de Normandie, à propos des SDF. 2000 places d'hôtels supplémentaires vont être installées pour héberger les sans-abri. Une enveloppe d'urgence de 50 millions d'euros va être débloquée par l'État. Et pendant ce temps, 130 000 Français restent bloqués à l'étranger, surpris par l'épidémie. Soumis d'ailleurs le plus souvent, comme dans l'Hexagone, au confinement. Ils sont bloqués surtout par l'annulation des vols à destination de la France, qu'ils soient au Maghreb pour la plupart, notamment au Maroc, en Asie également, beaucoup aux Philippines ou bien sûr en Amérique latine. Leur rapatriement n'est pas simple à mettre en œuvre et il peut d'ailleurs se révéler très onéreux, Éric Bigala.
Il faut d'abord obtenir des autorités locales qu'elles autorisent un vol, alors que certains pays ont interdit toute rotation vers ou à partir de la France, ou ont même entièrement clos leur espace aérien. Ça, c'est le travail des diplomates français, voire du ministre lui-même, qui a dû décrocher son téléphone pour obtenir quelques vols sur certaines destinations. Il faut ensuite que les compagnies aériennes, Air France ou d'autres compagnies étrangères, acceptent de fournir appareils et équipages. En général, ça fonctionne, ça marche, mais ce n'est pas gratuit. À Dakar, Marion, une étudiante en fin de stage a ainsi vu 6 avions lui passer sous le nez.
5 Air France et 1 Air Sénégal. Donc déjà 6 avions, c'est absolument pas assez pour le nombre de Français ici. Et en plus de ça, l'ambassade nous a dit que les billets étaient disponibles le matin. Dès qu'on a eu l'info, on est allé à l'aéroport pour acheter des billets. Il n'y avait plus de place, sauf en business. Les vols en business étaient à 1000 euros avec Air Sénégal, ce qui est déjà cher quand on est étudiant. Et les vols business Air France, donc il restait que ça, étaient à 3000 euros. En fait, on ne peut absolument pas avancer cette somme, clairement. C'est trop cher pour nous.
Transavia, la filiale low cost d'Air France, annonçait hier soir avoir déjà ramené plus de 20 000 personnes sur 110 vols en une semaine. À ce rythme, il faudra un mois et demi pour ramener tout le monde.
Éric Biegala. Dans l'actualité de ce samedi également, une bonne nouvelle quand même, c'est l'annonce de la libération ce matin du chercheur français Roland Marshall, détenu depuis 9 mois et demi en Iran pour atteinte à la sûreté nationale. Il avait été arrêté à l'aéroport en compagnie de l'anthropologue franco-iranienne Fariba Adelka, toujours en détention. Selon les autorités iraniennes, Roland Marshall aurait été libéré en échange de la libération par la France d'un ingénieur iranien menacé d'extradition vers les États-Unis. Bertrand Galichet, c'est une information que Paris ne confirme pas.
En effet, car la négociation a été secrète et surtout longue à démarrer. Ce sont les gardiens de la Révolution qui ont arrêté les deux chercheurs. Cette organisation paramilitaire très politique dispose pratiquement de tous les pouvoirs en Iran. Pendant un long moment, elle n'a pas envoyé de message clair à la France pour dire ce qu'elle réclamait en échange de la libération des deux universitaires. La seule certitude des autorités françaises étant le caractère invraisemblable des accusations d'atteinte à la sûreté nationale. Il y a quelques mois, l'Iranien Jalal Rolanejad est clairement apparu comme la monnaie d'échange exigée par la République islamique. Cette cet ingénieur accusé par Washington d'avoir voulu faire entrer en Iran du matériel technologique interdit par les sanctions américaines était détenu en France depuis un an et son extradition vers les États-Unis a été validée par la Cour de cassation mais attendait une confirmation politique. La libération de l'ingénieur iranien n'est annoncée qu'à Téhéran, pas un mot pour l'instant à Paris. L'arrivée de Roland Marshall aujourd'hui sera très discrète, sa compagne Fariba Abdelra, vous l'avez dit, est toujours détenue et Téhéran ne reconnaît pas la double nationalité franco-iranienne, ce qui complique la situation. Dans son communiqué annonçant le retour de Roland Marshall, le président Macron, ce matin, je cite, « exhorte les autorités iraniennes à libérer immédiatement notre compatriote, Fariba Abdelra ».
Bertrand Galichet avec nous en ligne, Marielle Debeau, chercheuse en sciences politiques à Paris-Nanterre, membre du comité de soutien aux deux ingénieurs. Bonjour madame.
Bonjour.
Le comité de soutien avait bien sûr toujours clamé l'innocence des deux chercheurs et réclamé leur libération. Aujourd'hui, vous êtes, disons, à moitié soulagée.
Oui, c'est une joie en demi-teinte. On a évidemment une immense joie, un immense soulagement pour Roland Marshall qui sera bientôt en France. Mais on reste extrêmement inquiet pour Fariba Abdelra qui est toujours dans la prison d'Evin en Iran. On est inquiet pour sa santé. On est même inquiet pour sa vie. On espère très bientôt qu'elle soit elle aussi rapatriée en France. Et c'est un moment très étonnant pour nous, à la fois de grande joie et de grande inquiétude.
Inquiétude aggravée, j'imagine, par l'épidémie de coronavirus qui frappe durement l'Iran, hein, avec officiellement ce samedi plus de 1500 morts.
Oui, l'Iran est un des pays les plus touchés par la pandémie. On sait que les prisons ne sont pas épargnées et les conditions de promiscuité en prison favorisent évidemment la diffusion du virus. Fariba Abdelra a fait une grève de la faim pendant 49 jours, une grève de la faim très courageuse. Elle est ressortie évidemment affaiblie. Elle a des problèmes aux reins. Elle n'est pas soignée correctement. Et si dans ce contexte-là, elle devait être affectée par le virus, ce serait évidemment très très dangereux pour elle.
Alors la France a aidé l'Iran, on le sait, en envoyant du matériel médical au début de l'épidémie. C'est peut-être un geste en retour de Téhéran. Quoi qu'il en soit, en Iran, les ingénieurs sont toujours, on le sait, hein, depuis longtemps, sont toujours considérés comme des monnaies d'échange.
Oui, les ingénieurs, les chercheurs et nous dans le comité de soutien, on défend la liberté académique, la possibilité pour les chercheurs de se rendre sur leur terrain. Et ce qui est en jeu ici, c'est le sort de nos collègues et amis, mais c'est aussi une politique systématique de l'Iran d'utiliser des chercheurs étrangers ou binationaux comme monnaie d'échange. Et donc nos collègues se sont retrouvés pris dans des enjeux géopolitiques qui ne les concernent absolument pas. On sait que les accusations d'atteinte à la sécurité de l'État sont très pratiques, très faciles. C'est une façon de retenir des chercheurs qui sont ensuite utilisés comme monnaie d'échange.
Marielle Debeau, chercheuse en sciences politiques à Paris-Nanterre, donc membre du comité de soutien à Roland Marshall, qui doit être libéré dans la journée, et Fariba Abdelra, qui reste en détention en Iran. Merci beaucoup. Pour terminer, il était une star de la musique country, Kenny Rogers, dont la carrière s'est étalée sur plus de 60 ans, s'est éteint à l'âge de 81 ans, sans aucun lien avec le Covid-19, selon sa famille. Kenny Rogers, qui avait remporté à 3 reprises un Grammy Award, avait annulé pour des raisons de santé les dernières dates de sa tournée d'adieu, c'était en 2018. He showed me love and gave me strength to carry on. I just put my faith in Jesus and let Him take my hand. I know He's gonna lead me to the promised land. He showed me love, and He'll do the same. Voilà, He Showed Me Love par Kenny Rogers. Le temps avec Jean-Michel Golinski.
De l'air plus frais envahit un large quart nord-est. Les maximales vont baisser sensiblement par rapport à hier, avec une moyenne de 10 degrés de moins cet après-midi sur la Lorraine, l'Alsace et Champagne-Ardenne. Baisse de 6 à 8 degrés sur le centre Val-de-Loire, le bassin parisien et la Bourgogne. Une fraîcheur accentuée par un vent d'est désagréable, sous un ciel globalement chargé dans la moitié nord, avec des trouées pour la Bretagne et les Hauts-de-France, mais parfois des pluies sur la Basse-Normandie et le nord-est, avec des flocons sur les Vosges. La moitié sud va conserver de larges éclaircies avec un risque d'averses en montagne. Dans le golfe du Lion, les entrées maritimes vont se disperser dans des températures sans grand changement par rapport à hier. Demain, maintien d'un vent d'est frais dans la moitié nord du pays, mais avec un meilleur ensoleillement qu'aujourd'hui, notamment au nord de la Seine et dans le quart nord-est. Dans la partie sud, contrairement à aujourd'hui, le ciel sera plus nébuleux, porteur de pluie du centre au massif central et de neige à moyenne altitude sur les Alpes et les Pyrénées.